Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
Nous sommes aujourd'hui dans la vallée de l'Erdre, un petit triangle entre Nantes, Angers et Châteaubriant, un joli coin de nature qui se mérite si on en croit les dépliants touristiques. C'est le premier épisode d'une série qui va nous occuper en cette année électorale et que nous avons appelé simplement « Les gens du coin ». C'est un peu ce qu'on fait tous les jours, mais en cherchant cette fois moins des histoires étonnantes que des façons de vivre au quotidien, de s'en sortir ou pas, dans les villes petites et moyennes, les coins pas exposés, comme la vallée de l'Erdre, le pays nantais. Ici, nous avons rencontré Patrick, qui habite une maison autonome, qui consomme le moins possible et vit avec moins que le SMIC. Et à 10 km de chez lui, Julie, qui elle travaille à plein temps dans une usine de lardons et gagne péniblement 1160 euros par mois, c'est-à-dire en dessous du SMIC. Son usine est à Saint-Mars-la-Jaille. La commune a changé de nom depuis et s'appelle maintenant Vallon de l'Erdre. Plus vendeur sans doute et plus bucolique, mais tout le monde dit encore Saint-Mars. Les gens du coin, premier épisode par Rémi Dibowski-Douette.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Julie, j'ai 51 ans. Je suis maman de 4 enfants et 5 petits-enfants. Et donc je travaille à la société Aubray qui se trouve à Saint-Mars-la-Jaille. Aubray, c'est une société de lardons, saucisses, ribs, les groins, les queues. On est leader européen du lardon. Donc je suis arrivée ici, ah ben, c'est pas compliqué, hein. J'ai eu deux filles et suite à ça, je me suis séparée comme bien des femmes, hein, pour X raisons. Et j'ai refait ma vie et j'ai eu deux autres petits-enfants, garçons et filles. Et ben, c'est bien joli d'être maman au foyer, mais quand vous avez quatre enfants et qu'un salaire, c'est un petit peu compliqué. Donc un jour, la banque, elle m'a appelée. Ben, écoutez donc, madame, ça serait bien que vous faites quelque chose. Donc j'ai appelé... la boîte intérim, je me suis inscrite et puis ils m'ont dit, bah, vous rentrez à la société Aubray. C'était voilà 20 ans. Et du coup, je suis donc en salaison 3, je suis opératrice polyvalente. Je fais un petit peu toutes les lignes. Je travaille en 2-8, qui est très difficile quand on a 50 ans. Parce que je me lève à 4h moins le quart, 3h30. Et que la fin de la semaine, on n'est plus du tout actif. Hein. Jeudi, vendredi, c'est canapé toute l'après-midi. Après, on n'est pas motivé non plus parce que on a quand même l'humidité, on a le bruit. Ah, le bruit, c'est infernal. Les moteurs des machines, hein, c'est sans cesse. Ça claque de partout, c'est fatigant. C'est casse-tête, les moteurs des machines. C'est insupportable. On a beau avoir des bouchons, le bruit est toujours là, présent. Donc on n'arrive même pas des fois à parler deux mots, à se faire comprendre, il faut crier, ou par geste. Je mets la viande dans les ogées, les gabarits, hein. Il circule et il faut mettre votre poitrine dedans. Donc je mets la viande comme je peux. Et donc comme il y a des cadences, faut mettre la viande. Si vous ne la mettez pas, les lignes sont arrêtées. Donc si elles sont arrêtées, ça ne le fait pas. Donc on est toujours obligé de trinquer. Et en fin de compte, on a en plus deux lignes par personne. Donc alimenter deux viandes différentes sur chaque ligne, c'est des mouvements, mais c'est incroyable. Là, actuellement, on a ce qu'on appelle, nous, la salle de mixage. C'est les poitrines qu'on prend dans des cuves. Et il a ces poitrines-là, avec le froid, elles sont souvent collées. Donc, il faut tirer dessus. Donc, on a des douleurs aux épaules. On a des douleurs aux coudes. On a le canal carpien par les gestes répétitifs. Enfin, c'est un casse-tête, quoi. Après, si je suis sur la ligne IKF, qui est des produits surgelés, donc là, c'est pareil, les produits, c'est des gros boudins de viande qui arrivent en caisse, qui font entre 5 et 10 kilos, selon la viande, que faut déboyauter. Donc, faut prendre la caisse, enlever la housse, mettre sur la table, enlever le boyau, reprendre la viande, remettre sur le tapis pour que ça puisse faire du lardon surgelé qui passe dans un tunnel. Et après, si je suis au sac, faut récupérer 10 kilos de marchandises dans le sac, prendre le sac, le soulever, le souder à la machine et le mettre dans un technifil ou sur le tapis. C'est toujours des gestes et des gestes et des lourds, un poids. Puis ce froid, oh, il fait 3-4 degrés. Et moi, la paume des mains, c'est une catastrophe. Donc on va sous l'eau chaude, on a des petits lavabos, on va se mettre les mains un peu sous l'eau chaude, ou on va donc, carrément aux toilettes, il y a des robinets, on passe les mains sous l'eau chaude, quoi. Donc on est toujours dans l'humidité. Donc on met des pulls et des chaussettes, parce qu'on n'a pas trop le choix, hein. Autrement, si vous arrivez en t-shirt, vous allez cailler, hein. Non, il faut être habillé chaudement quand même, mais assez confortable, parce que si vous êtes trop boudiné, c'est pareil, hein, votre corps n'est pas à l'aise, il ne respire pas. Et je vois des collègues qui sont malheureuses, hein, c'est double pull, des écharpes et voilà, des triples chaussettes. Et encore, elles sont encore froides. Non, non, il ne faut pas, puis pas arrêter de travailler non plus, parce que là, si vous avez un moment immobile, il faut toujours rester actif. J'en ai bien pour encore 11 ans à faire. Hein, je ne sais pas si je les ferai, mais voilà. Après, on a appris à travailler différemment. Commence à reporter les sacs pour se soulager, pour voilà. Donc moi j'ai demandé à être polyvalente pour ne pas toujours être au même poste. Donc je tourne, les chefs d'équipe me font tourner, donc c'est l'idéal. Donc on n'a pas les mêmes douleurs à chaque fois, quoi. Après, ben, c'est pareil, il y a le fameux casse-croûte. Hein, une casse-croûte, c'est des salades de nouilles tous les jours. C'est fourni par l'entreprise parce qu'ils ne nous payent pas la pause, mais ils nous fournissent le casse-croûte. Alors avant le Covid, on avait donc du pain, du beurre, du jambon, pâté, confiture, la compote et un yaourt. Ça leur coûtait pas très cher, 1,50€ par là. C'est tout ce que ça coûtait. Donc là, avec le Covid, qui a les épaules larges, on a de la salade de pâtes. Alors, un coup, c'est du jambon, un coup, c'est du poulet. Voilà. Les triangles, ils sont un coup jambon, tomate, un coup au fromage. Et voilà. Et on fait avec. On n'a plus de yaourt, on n'a plus de sucrerie, on n'a plus rien. Et ça coûte 2,50€ par personne. Ça a augmenté d'un euro. Alors, on leur coûte cher. À la longue, on en a marre. Nous, on veut du vrai pain avec du jambon et du beurre, la confiture, du sucré. Pour ceux qui mangent pas de charcuterie ou de viande, mais un peu de tout, quoi. Un carré de chocolat, ou mais du vrai pain. Voilà, je suis payée en dessous du SMIC. Ça fait quand même 20 ans que je suis là. Petits comme moi, petits opérateurs qui faisons la merde, hein, c'est le coup de le dire. On n'a rien, quoi. Donc aujourd'hui, on réclame une revalorisation de nos salaires, quoi. C'est pour ça qu'on est en colère. Parce que le SMIC, il a quand même monté d'un seul coup. Et pourquoi pas nous? Vous avez vu le prix du gasoil aujourd'hui? Vous allez faire vos courses chez Édouard, là? Ben, on n'a pas grand-chose dans le chariot pour 100€. Tout a augmenté, c'est pas possible. On n'a même pas pour les vacances. On est incapable de partir 8 jours dans un bungalow en plein mois d'août. Hein. À 700€ le bungalow, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein. Donc je pars à la journée. Une journée par-ci, par-là, je vais à la pêche, hein, je vais faire des randonnées. Alors partir une journée à la mer, tout payer une glace, voilà ce qu'on a le droit. On rentre le soir, voilà. Et bon, c'est déjà pas mal, on fait une petite sortie. Bon, on va au parc avec les enfants, parce qu'on a quand même un bon CE qui nous donne un petit peu. Donc on se paye une crêperie, un parc. Hein, mais voilà, ça s'arrête là. Hein. Bon, maison, je suis en location, donc je suis pas chez moi. Donc je galère, je paye mon loyer. Paye mon chauffage, qui ne va pas aller en descendant non plus. Voilà, je paye mon gasoil aussi, qui va nous coûter cher. Parce que plus ça va, plus ça monte. Et que notre salaire, lui, ben non. Donc on va encore se serrer la ceinture. Encore et encore. Toujours le petit qui trinque. Et pourtant, l'entreprise va très très bien. Ça fait 2 années avec le Covid nous a bien aidés. Hein, parce qu'on a toujours été présents, tout le monde est venu travailler. On n'a pas eu de cas Covid concret chez nous. On a donné, parce que là, les cadences, moi j'en ai bavé. Hein, parce que la salle de mixage, comme on dit là, eh ben, les machines étaient à fond. Hein, et là, il fallait alimenter. Par n'importe quel moyen, il fallait y aller. Ben là, on a fait du chiffre. On voit bien les chiffres qu'ils donnent. Dans les PV du CE, donc on avait quand même dégagé des belles marges. Ah ben là, il a fallu pleurer pour avoir une prime. On s'est battu encore pour avoir cette prime-là, comme si on ne la méritait pas. On a eu 20 euros par jour, pendant 2 mois de présence. Quand on voit le cadence que ça peut être, qu'au moins que les salaires soient revalorisés comme le SMIC, c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. C'est quand même pas grand-chose. On n'a même pas les primes d'équipe, on n'a même pas la prime panier, on n'a pas de prime de vacances, on n'a rien d'autre. Incroyable quand même, incroyable. Et à côté de ça, bah, ils ont la belle vie, l'entreprise se porte bien. Ils ont le culot de vous dire ça en plus, que l'entreprise se porte bien et que c'est une entreprise de pauvres. On rigole un peu parce que quand on voit qu'on n'a plus d'intérimaires qui viennent chez nous, ah ben on a essayé de travailler avec les boîtes intérimaires, on a essayé. On a eu 7 personnes. Sur les 7, il en est resté 2. Et comme on était en base d'activité, au lieu de les embaucher, ben on leur a dit merci, au revoir. Voilà. Donc après, ben quand l'activité reprend, ben on n'a personne. Parce que là, il faut savoir qu'il y a beaucoup de maladies professionnelles et beaucoup de départs en retraite. C'est ça qui est dommage. Parce que le savoir-faire, bah, il est parti. Et puis, bah, on a eu des jeunes hein, qui sont en intérim, qui sont venus. 1700, 1800. Bon, bah, dedans, il y a les congés payés, il y a plusieurs choses. Et qu'ils ont voulu se faire embaucher, 1100. Ah, bah, ils ont vite déjanté. Hein. C'est ça le problème. Si les salaires étaient revalorisés, comme il se doit, je pense qu'on aurait quand même des intérimaires. Intérimaires français. On est obligé de prendre de la main-d'œuvre étrangère, et dans la main-d'œuvre étrangère, donc il y a quand même le problème de la langue, et qui nous met la pression, parce qu'on fait avec le langage des signes. Donc il y a des Roumains qui parlent très bien français, donc ça se passe très très bien, et très gentil, mais il y a des gens qui sont polonais, mais alors là, le langage des signes, complètement. Moi, une chose est sûre, c'est que j'ai travaillé avec une petite dame étrangère, et j'ai découvert en lui parlant qu'effectivement, elle était roumaine, mais elle habitait Nantes et dans les caravanes. Donc c'est une Rome. Donc pas de papier et on exploite les gens. Donc vous vous rendez compte, pour une entreprise qui tourne bien, l'autre jour il y avait même une dame qui était enceinte jusqu'au cou et elle travaillait chez nous. Mais c'est du lamentable parce que les femmes enceintes n'ont pas à travailler dans l'agroalimentaire avec du bruit et dans l'humidité comme ça. Mais là c'est de l'exploitage. Là, le problème, c'est qu'on n'a même plus personne pour venir travailler. Il y a des secteurs que bah, les lignes sont interrompues parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'intérimaire. On manque de main-d'œuvre. Donc on paye des entreprises extérieures qui coûtent beaucoup plus cher, mais ça ne dérange pas l'entreprise. Voilà comment j'ai de l'argent par les fenêtres. Là, on manque tellement de main-d'œuvre que maintenant, la cerise sur le gâteau, on parraine les gens. On peut parrainer une personne. Et si on parraine une personne qui reste, on a 1000 euros au bout pour faire venir des gens. Parrainer les gens, vous vous rendez compte? Lui dire que tu vas avoir tant comme salaire, je sais pas, il va rigoler au nez. Hein. La personne va dire, bah, tu vas pas bien, non? Tout ça pour que moi j'ai 1000 euros. Ou alors, on a dit comme ça, aux gens, bah, vous démissionnez. Et puis moi, je vais vous faire rentrer après. Comme ça, ben, on se partagera l'argent. On sera un barbecue. Hein, voilà où qu'on en est rendu. avec notre chère direction. Il faudrait qu'on soit aussi respecté à notre poste de travail aussi, revoir les conditions de travail. Il y a des choses à faire. Qu'on vienne nous voir à nos postes, tout ça va bien. Le respect, la communication, ça fait des années qu'on parle de communication à tous les étages. Il n'y a pas de communication. On est obligé de se battre, de dire, de faire pour se faire entendre. On n'est pas écouté. Si c'était à refaire, si j'avais 20 ans de moins, je ne crois pas que je travaillerais ici. Si j'avais une opportunité, forcément, qu'on me dirait, tiens, je suis un commerce, tu serviras les clients, tu auras tel montant, je pense que je laisserai tout, oui, forcément. Je ne fraude pas pour Macron, moi. Non, je suis plutôt pour la gauche, pour le bien des ouvriers. Et pas pour la droite, puis pas un macroniste. On en a un chez nous, c'est déjà bien. Un patron, bon oui, c'est un économiste, hein, à 100%. Vous voyez bien, il tire sur toutes les ficelles. Les salaires, les conditions de travail. Bon, après, je crois qu'il fait son boulot. Hein. Il est dirigé par un groupe, hein, donc nos chers actionnaires, on ne voit pas, mais pourtant ça va mal chez nous, mais on ne les voit pas. Donc, ils ne sont pas très inquiets du moment qu'on rapporte de l'argent. Et c'est ce qu'on fait, donc. On rapporte de l'argent. On est la vache à lait.
Je m'appelle Patrick Baronnet. Je vis en Loire-Atlantique, mais Brigitte et moi, on est nés dans le 14e et 15e arrondissement. J'ai fait des études de professeur d'éducation physique. Et à cette époque-là, en mai 68, il y avait un mouvement social important qui a arrêté toute la France. Et j'étais dans le coup, j'ai bien suivi tout ça. Moi, j'étais grimpé sur la gare du Nord assez haut pour voir l'ensemble. Et je suis resté de glace. Les gens étaient un petit peu euphoriques. Ils étaient heureux d'être ensemble. Ils chantaient, ils prononçaient des slogans. Et moi, j'étais assez froid parce que le contenu de ces slogans, c'était « changer de pouvoir ». C'est-à-dire que les gens râlaient contre le pouvoir. À l'époque, c'était De Gaulle. Et voulaient une augmentation de salaire, etc. En fait, ce qui m'intéressait, moi, dans la vie, c'est reprendre le pouvoir sur moi-même. Et plutôt que de demander aux autres un certain confort de vie, un salaire, etc., on a dit, on va essayer de voir quels sont nos besoins et ensuite voir comment on peut satisfaire nos besoins. En ville, on avait un carnet d'adresses, on avait un salaire supérieur, on pouvait monter dans l'ascenseur social. Mais en fait, au bout du compte, on s'est dit, on va faire l'expérience, risquer peut-être, de vivre avec peu, alors que Brigitte et moi, on pouvait être tous les deux à un salaire plein. Et on s'est dit, ça fait partie de l'expérience d'avoir moins d'argent et d'essayer de produire soi-même ce qui est possible de produire. Donc, on a compris que c'était en campagne que l'autonomie pouvait être possible. Donc, contrairement à l'ensemble de mes copains étudiants, alors que tous étaient très contents de rester à Paris comme prof, moi, j'ai demandé la Bretagne, parce qu'on est breton, et on a décidé avec Brigitte de vivre en pleine campagne. On a acheté cette maison pour pas très cher, parce qu'à l'époque, c'était pas très cher. Et en empruntant le tracteur de nos voisins agriculteurs, on a construit la maison dans laquelle nous sommes. On a eu donc 4 enfants et on a commencé à se projeter sur l'autonomie. Quand on s'est installé en 1976, on a vécu pendant 7 ans sur un salaire complet. Et le mien, Brigitte, n'ayant pas de salaire. Et on décide que si on veut être conséquent, on doit pouvoir vivre avec moins d'argent, c'est-à-dire la moitié d'un salaire de prof, c'est 2/3 d'un SMIC, en gros. Donc, on s'est mis en situation de sobriété. On a changé un peu notre mode d'alimentation. On est devenu plutôt végétarien et il n'y a pas de mal à être carnivore non plus. On est très ouvert là-dessus. On assume notre alimentation et donc, c'est très important, notre santé, puisque ça fait 50 ans que je n'ai pas vu le médecin. On a toujours eu de quoi manger correctement, parce que on a des pommes de terre pour toute l'année, on a des carottes pour toute l'année, on a des salades pour toute l'année, on a plein de choses pour toute l'année. Et donc, grosso modo, on est à 2/3 autonome et 1/3 dépendant, non pas du système, mais dépendant des gens qui sont locaux. Par exemple, l'huile d'olive, je ne la fais pas. Donc, il y a des petits commerçants qui le font. Il y a des tas de choses quand même qu'on n'a pas, comme tout ce qui concerne les savons qu'on ne fait pas. En fait, on va dans les marchés locaux. Bon, quand on a des assiettes qui cassent, eh ben, on ne peut pas les faire nous-mêmes. Mais c'est des objets que l'on garde. Une fois qu'on les a achetés, on les garde. Donc, quelque part, pour être autonome, on assume complètement notre eau par des systèmes de récupération d'eau pluviale. On assume également toute notre épuration, dont plus de factures d'eau depuis 46 ans, plus de factures d'électricité depuis 23 ans. Donc, on a rendu possible, avec des photopiles qui n'existaient que très peu à l'époque, et avec une éolienne qu'on a fabriquée avec des amis, c'est-à-dire qu'on a descendu notre consommation d'énergie suffisamment bas, sans un investissement énorme, 7 000 ou 8 000 euros, eh bien, on sait que jusqu'à la fin de notre vie, et c'est le cas, on n'aura plus rien à payer au niveau électricité, au niveau eau, au niveau taxes, au niveau TVA, etc. Donc, on a un confort décent chez nous, sauf qu'on consomme 8 fois moins que la moyenne des Français. Mais on est heureux avec ça, et je ne pense pas que nos 4 enfants nous aient reproché quoi que ce soit comme manque de confort qu'ils avaient chez nous. On a rendu possible de vivre avec peu en substituant l'achat à la fabrication par soi-même. Ayant construit ma maison, je sais comment elle marche, donc si j'ai un problème, je ne vais pas chercher un artisan ou un spécialiste de quoi que ce soit, je me démerde. On a aussi quand même des copains qui étaient, par exemple, compétents en matière d'enduit. Bon, ils nous ont montré comment faire. Ben moi, au bout de 3 heures, j'ai compris comment faire, puis je le fais moi-même. Le mur qui est ici, là, c'est moi qui l'ai fait, je savais rien faire. Hein. Pour les matériaux de la maison, on attendait d'avoir un peu d'argent pour pouvoir s'acheter ou du bois ou des ardoises, etc. Par exemple, on a mis de l'amiante ciment sur mon toit, alors qu'on savait très bien que c'était pas terrible puisque c'est du fibrociment. Mais on a fait des compromis pour pouvoir honorer le vœu qu'on voulait vivre avec peu d'argent. Et quand on est limité en argent, mais qu'on est à la campagne et qu'on a une certaine liberté d'action, on devient bricoleur si on n'était pas, on devient astucieux et en fait, on trouve toujours des solutions pour faire des meubles pas chers en récupérant des palettes. Au lieu d'acheter une cuisine toute faite, eh ben, on prenait des dalles de schiste. Là. On a un évier qui est gratuit, une gazinière qui a 60 ans qui est gratuite. On récupère chez les antiquaires des armoires qui peuvent plus rentrer dans les appartements modernes, donc on récupère ça. On a appris à récupérer, à demander aux gens s'ils n'ont pas ceci ou cela. Donc, au bout du compte, on a essayé de mettre au point une vraie alternative, c'est-à-dire créer une micro-société locale où on échange des services. Parfois, il y a des choses que l'autre peut faire et qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est vrai que ça a été dur. En plus, on décidait de prendre en main même l'accouchement à la maison. C'est pas moi qui ai accouché, mais j'ai aidé Brigitte à accoucher. Donc, on s'assumait sur énormément de plans. Et donc, on a un temps libre beaucoup plus important que la moyenne des Français, puisque on est à mi-temps. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas du tout dépendant de l'argent, on l'est encore un peu, mais sur l'équivalent d'un demi-salaire. les villages, il y a 100 ans, ils étaient autonomes à 70% à moins de 15 km de là où ils habitaient. Et donc, ce modernisme nous a rendus esclaves, alors qu'avant, hein, ils travaillaient dur, mais ils étaient dignes. Et ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils buvaient, leur maison était faite avec des gens du coin. Aujourd'hui, on est dans la mondialisation, on a une perte complète de repères, et la seule solution pour vivre, c'est le supermarché, c'est la pompe à essence, et puis c'est le boulot. Donc, qu'est-ce qu'il y a de commun en ce moment ? Tout est uniformisé et tout est pyramidal. C'est quand même le politique et les politiques qui ont foutu en l'air les communs. Je veux dire, aujourd'hui, maintenant, c'est un minimum d'agriculteurs que je respecte malgré tout parce qu'ils sont aussi prisonniers que tout le monde. Ils ont entre 100 et 200 hectares ici et on n'a plus le droit d'avoir des petits agriculteurs. Donc, qu'est-ce qui fait ça ? C'est bien une volonté politique qui empêche les gens de vivre de leur savoir et on est obligé d'avoir un salaire. Donc, le politique aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les communs. J'ai dit, il y a une concentration de l'argent, une concentration des pouvoirs aussi. Donc, tant qu'on restera dans une société à relations humaines, ça fonctionnera. Mais quand il y aura l'État qui intervient entre les gens, ça n'ira plus.
Est-ce que vous votez ?
Non, ça suffit, la mascarade. Bien sûr que non. On a compris qu'avec le recul, du con et condu, c'est la même chose. Donc, le vote, c'est pour continuer de faire en sorte qu'on soit au service d'une certaine oligarchie. Et donc, je vais pas manger de ce pain-là. Alors, dire qu'on vote et que c'est un acte citoyen, il va falloir réfléchir à cette réflexion, quoi. Soyons clairs, j'ai une voiture, j'ai un ordinateur et je suis obligé de l'avoir pour faire des vidéos. J'en fais plein sur YouTube, etc. Ben, il faut des appareils et je pense qu'on est obligé. La société, par définition, va vers le progrès, mais lequel ? Nous, on a des vélos pourris qui ont 50 ans, on les a pas changés, on n'a même pas de vélo électrique alors qu'on pourrait l'avoir. Bon, on fait les bords de Loire, on se balade et c'est notre plaisir. Sauf que notre plaisir a été façonné par notre mode de vie. On n'a pas besoin de choses extraordinaires. Donc, pour nous, la vie simple, c'est bien manger, rire, jouer de la musique. On est créateur de nos propres loisirs plutôt que de les consommer. Ça m'empêche pas quand même de regarder des films à la télévision. En fait, à la fois, on est heureux parce que notre vie a un sens, parce que notre ménage va bien, on a des enfants avec qui on s'entend très très bien. On est heureux aussi parce que on sait ce que c'est que la santé. Moi, j'ai 75 ans, je bosse avec des gens de 25 ans, je suis pas à la traîne. On mange bien, on lâche au l'hiver. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qu'est-ce qui me manque ? Rien.
C'était Les gens du coin, vivre avec le SMIC dans la vallée de l'Erdre. Un reportage de Rémi Dibowski-Douat, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Patrick et à Julie, attachée de production Jeanne Cobet, stagiaire Solène Vanet-Kobach.